Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs et auditrices et ceux qui n'ont pas encore choisi. Bienvenue dans le débrief avec Samuel Rasmussen et Joey Aubé, votre fidèle serviteur. Nous allons être avec vous pour la prochaine heure à parler de démocratie.
J'espère que ça parlera pas de même tout le long parce que je mets ça sur X.
Non, mais bienvenue à Radio Galilée. Où tu mets la cassette, tu mets une cassette vraiment en poche pour te garder réveillé. Là.
Radio Vatican. Pourquoi pas?
D'accord, du participe passé employé avec l'auxiliaire à voix. Avec la grosse voix et SMR.
Plein de monde qui partent là, déjà. Là.
Ah ouais, il est déjà trop tard, c'est déjà terminé. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le débrief. Yes, peut-être dire un petit shot d'avance si vous avez des commentaires. Vous êtes membre Patreon et vous voulez qu'on lise vos commentaires. N'hésitez pas à laisser, bien sûr, un commentaire dans la publication du débrief sur le Patreon de Yann et Frank. On va vous prendre en priorité. Sinon, bien sûr, les super chats sont toujours pris en priorité également. Mais continuez à commenter, bien évidemment. Des fois, vous êtes peut-être chanceux. On vous trouve tellement intéressant que vous méritez de qu'on commande votre citation. Mais ça va nous faire plaisir. Fait que oui, nous parlons de Demos Kratos, Roussakov. On peut dire ça comme ça avec l'élection.
Russie, démocratie. Mais oui, c'est... On fait un comparatif entre ce qui se passe avec le pays des buveurs de vodka et le pays des buveurs de whisky canadien. Plusieurs vont peut-être sourciller en disant ça, mais est-ce que le Canada est vraiment une démocratie pleine? C'est ce qu'on va voir. Et c'est un prétexte aussi parce que sans très grande surprise, Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de Russie, a été réélu à presque 90 des voix dès le premier tour. Bref, on va un peu mettre la table aussi à savoir, est-ce que la Russie peut être un peu démocratique et est-ce que le Canada peut être pleinement démocratique? Alors, on va démêler les choux et la chèvre, comme on dit. Donc, c'est un peu là-dedans que je veux vous lancer ce soir. Donc, n'hésitez pas à m'inscrire vos commentaires. Je les lis de façon attentive, du moins 70% attentive, dépendamment de si je parle ou je lis vos choses. Bon, bref. C'est à peu près ça.
On part ça.
Voilà.
Yes. Oui. Là, je te laisse aller. Ben, autant que je veux dire, c'est ton show, tu peux bien faire ce que tu veux, mais je pense que là-dessus, je vais te laisser. D'habitude, t'es toujours sur le volant, puis moi, je suis sur le siège du passager avant, mais ce coup-ci, je pense que je vais être sur le siège arrière. je vais commenter, bien évidemment, ça sera pas un monologue, mais c'est ça, je suis juste vraiment curieux d'entendre ta réflexion là-dessus.
Ben, on est là pour avoir un dialogue, autant Absolument. Avec ceux qui font partie de cette tribune, autant de ceux qui commentent. On est dans un dialogue.
J'ai mon dialogue en plus.
T'as ton. Oh, c'est quoi?
Bon, il n'y a même pas d'alcool là-dedans. C'est du jus de canneberge avec du jus d'orange. Fait que...
Ah oui, je vois le petit fond là. Bon, c'est bon, ça. Parfait.
Excellent, pensant pour ça qui trippent zéro sur le jus de canneberge, mais qui ont le goût d'avoir des antibiotiques, sa mère, avec pas.
Avec un oignon complet, puis de l'ail bien en masse.
Un oignon de vodka. Complet,
ouais. Oui, avec un citron aussi. Fait comme les Russes.
Ouais, c'est comme le vieux mime avec les Simpsons dans American Dad. Eux autres, ils croquaient des betteraves quasiment crues. Là, puis ça...
Ah ouais. Ils prenaient de l'huile de foie de morue, mais directement du foie de la morue. Bref, ça, c'est un détail. Là, mais c'est ça, c'est que bientôt, Vladimirovitch Poutine va dépasser Staline. Déjà là, en partant, Staline, si vous ne savez pas c'est qui, on va vous remettre dans le bain, Yossip Djoukachvili Vissarionovitch, qui était secrétaire général du Parti communiste de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Bref, le gars était là de 1924 à 1953. Un des pires criminels de l'histoire de l'humanité, à côté un peu avec Hitler et Mao Tse-tung. Alors qu'un président qui est quand même élu, mais du moins a remplacé Boris Eltsine pendant sa maladie. Bref, ça a été complexe, mais il a été quand même élu de façon démocratique. C'est quand même assez spécial. Parce que Staline aurait été aussi un peu surréélu par la suite en prenant le pouvoir, en déchirant le testament de Lénine en 1924. Alors, il n'était pas supposé d'être là. Poutine n'était pas supposé d'être là non plus. Là, vous allez dire, mais Canada, c'est ça. Justin Trudeau n'était pas là non plus. Il n'était pas supposé d'être là non plus. Ben, ça m'apporte à dire « two wrongs don't make a right ». C'est pas parce que, étant donné les circonstances russes, que le Canada n'est pas une démocratie. Mais si tu peux me passer ici l'indice, je sais pas si tu as envoyé ça, l'indice de démocratie.
Oui, c'est un instant, je peux trouver ça.
Je pense même que tu peux le trouver sur Wikipédia. C'est quand tu tapes indice de démocratie.
Oh, oui, bon, je l'ai. Demain, c'est une petite minute parce que je vais le programmer pour la Russie. Parce que pour l'instant, okay. Ils l'ont mis automatiquement pour le Canada. Là.
C'est ça. Il y a des démocraties qui sont à part entière. Vous savez, quand même, la majorité des pays de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale. Tu as les démocraties qui sont imparfaites, qui viennent jusque dans les Caraïbes. Démocratie hybride, dont la Russie en fait partie. C'est d'hybride à autoritaire et régime très autoritaire. Donc, vous aurez compris que présentement, du moins dans 2023, c'était la Norvège. Tous les pays scandinaves y sont représentés, sans très grosse surprise, la Suisse, les Pays-Bas. Et le Canada est 13e. Il a dégringolé quand même, parce que depuis 2006, c'était le méchant Stephen Harper qui était là, c'était 9,07. En 2015, c'est là que ça dégringole quand même. Hein? Because it's 2015. Curieusement, hein? Justin Trudeau qui fait démolir la démocratie, ça se peut-tu ça? Peut-être. Mais on est passé de 9,7 en 2006 à 8,69. Bon, vous allez me dire, il y a aussi eu la pandémie là-dedans. C'était comme une loi des mesures de guerre.
Je l'ai.
N'empêche. Puis t'as à la fin, voilà. Ben ça, c'est ici, c'était sur Perspective Monde. Ouais, ça, on ne l'a pas depuis... ça, c'est l'indice...
L'indice démocratique.
L'indice démocratique. Je ne le vois pas au complet, excuse-moi. Jusqu'en 2020. Les données de Perspective Monde de l'Université de Sherbrooke n'est pas tout à fait au point. Tu as l'indice de démocratie, somme toute, de Democracy Index. T'as un rapport à chaque année aussi.
Ça vient de l'ONU, c'est de 1 sur 10, en fait. C'est qui compte majoritairement tout. La liberté de presse, liberté d'expression, institutions démocratiques, santé générale de la population. Tu sais, c'est vraiment multifactoriel. Puis ils font une note de 1 à 10 à chaque fois. Et ce qui est drôle, tant que là, ils ont droppé, bien, c'est sûr que j'assume que depuis la guerre en Ukraine, en tant qu'on n'a pas les stats, mais j'assume que ça a dû être pas mal gardé au même niveau. Là. Mais ce qui était drôle, je veux pas totalement changer de sujet, mais ce qui est assez drôle à noter, c'est que l'Ukraine... la journée avant la dite guerre qui a déclaré, il y avait à peu près le même niveau d'indice global démocratique que la Russie.
Oui, ce sont deux pays qui sont concentrés dans des axes où ce sont des oligarchies.
On parlait de 5 sur 10 sur le monde, à peu près. Fait que les paragons de démocratie, on repassera.
Exactement. Ben, vous savez, depuis la chute de l'Union soviétique, qu'est-ce qui a réellement pris le pouvoir dans les pays de des anciens satellites de l'Union soviétique, autant en Russie également? Ben, ce sont les mafieux. Ce sont les grandes corporations qui ont justement ce qu'on appelle l'intelligentsia. On parle les apparatchiks. Tu sais, quand vous entendez ça, ça doit vous sonner peut-être une cloche. Tu sais. Justement, ce sont les élites qui ont un peu picossé les ressources en Russie. Autant en Ukraine. L'Ukraine et la Russie, à toute proportion gardée, se ressemblent assez bien dans leurs principes. Mais c'est ça, c'est une démocratie hybride, la Russie, hybride à autoritaire. Bon, vous allez me dire, ben là, Poutine est réélu presque à 90%, c'est presque un score d'un dictateur soviétique. Mais ça, on va voir les partis politiques qui œuvrent comme opposition. T'as Liberalno Demokratskaya Partie Rasi, le Parti libéral-démocrate russe. Ben, je me disais, mon Dieu, Parti libéral-démocrate, c'est le fun, ça, pour les auditeurs de Yann Efrain. Non, pas tant, non, parce que c'est ni libéral puis ni démocratique. C'est un peu comme la République démocratique du Congo. T'as juste le Congo. T'as pas de République, t'as pas de...
Ben, normalement, par défaut, dites-vous que si on n'a pas le choix de marquer démocratique dans le titre, c'est que c'est pas démocratique.
Ben, c'est ça.
Tu sais, quand je vous parlais dans Yann et Frank, pour ceux qui ont écouté le Patreon il y a une couple de semaines, que je parlais je faisais une rant sur les jingles de Cube Radio, puis ça durait quasiment 45 secondes pour dire genre Cube Radio, des rencontres incroyables, des animateurs, de grands débats. Ben, s'il doit vous répéter ça 15 fois avant que le segment commence, je vous le confirme qu'il n'y a rien de ça.
Ben non, c'est ça.
Fait que les républiques démocratiques, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de démocratie dans la République.
Je veux dire, sincèrement, sincèrement, là, ça, c'est vraiment dans les résultats nationaux préliminaires. Tu avais en tête de liste, là, bon, c'est pas important, Nikolai Karitonov, qui vient du parti. C'est un autre, ça. Ça, c'est okay, l'opposition ça,
c'est...
officielle. Je sais
pas si c'est Frank ou c'est Yann.
Oh, ça, je pense que c'est Frank. Ça ressemble à Frank. C'est de la façon dont il l'écrit. Il y a Komunisheskaya Partia Rossiyskoi Federatsii. C'est l'opposition officielle, c'est le Parti communiste. Imaginez, vous avez le choix entre Poutine, qui est un leader populiste, nationaliste, vous avez les communistes, puis vous avez un parti qui se dit libéral-démocrate, hein, ultra-nationaliste, qui dit quasiment que Poutine est un faiblard et souvent qualifié par les experts internationaux de fasciste. Parce qu'on s'entend, là, c'est pas le fascisme de Milley, là, c'est pas ça, là. En disant que ben, la Russie devrait peut-être bombarder la Pologne. Ouais, c'était Vladimir Jinirovski qui est décédé, heureusement. Mais m'étonne jamais vraiment la mort d'un homme, mais celui-là, c'est inquiétant. Là. Quand tu dis « Ouf, Poutine est au pouvoir », ça peut être pire, tu sais. Je suis pas en train de dire « Je suis pro-Poutine », mais pas du tout. C'est-à-dire que tu as la lèpre, tu as le choléra, puis tu as la grippe espagnole, tu sais, dans les choix. Donc, tu as presque 76 millions qui ont voté pour Poutine, puis le reste... Ah, ça, c'est intéressant, par exemple. Vois-tu, tu as Nové Yeloudi, qui est une nouvelle personne, qui est un parti, du moins, plutôt libéral, centre-droite, régionaliste, sont pour la démocratie directe. Ils ont quand même 13 députés à la Douma, qui est un peu l'Assemblée nationale là-bas. Ils ont quand même eu 3 millions de personnes, soit 3,9% qui ont voté. Ça ne sera pas assez pour être représenté de toute manière à la Douma. On parle d'élections présidentielles. C'est pas tout à fait comme les élections législatives. Ça prend 7% d'un seuil pour être représenté, pour avoir une représentation en Russie. Mais on fera pas toute l'exégèse non plus du système démocratique russe, excepté qui ont quelque chose d'intéressant comme ce système de scrutin, c'est le mode proportionnel intégral, qui est représenté aussi en Israël, dans quelques pays, qui font en sorte que les partis sont mieux représentés. Alors, de l'autre bord, l'autre deuxième plus grand pays du monde, c'est quoi qu'on a comme choix? Ben, on a, quand tu m'avais montré, je pense qu'on en avait parlé même la semaine passée, ce graphique-là m'a marqué. Où les partis politiques de l'opposition qui votent dans les mesures.
Je vais essayer de le retrouver.
Voilà. Donc, il y a beaucoup de ressemblances, beaucoup, mais pas la majorité non plus, des choses qui se passent en Russie au niveau médiatique. Il n'y a pas beaucoup de journalistes, il n'y a pas beaucoup de journaux qui sont contre Poutine. La même chose ici. Avec notre gouvernement provincial et fédéral. C'est épouvantable. Ce que tu dis là, comparer la Russie au Canada sur le point de vue médiatique. Je reviens sur les critères. Processus électoral et pluralisme. Le pluralisme en Russie, avec Poutine, Karitonov, Dankov ou Slutsky, n'est pas là. Parce que de toute façon, à la Douma, ils votent de toute manière les mêmes. Il y a un rally around the flag autour de Poutine qui est Rassia Radina, Russie unie. Fonctionnement du gouvernement. Ben, la qualité de la gouvernance, ben, ça vient, ça part. T'as peu de transparence, t'as peu d'efficacité administrative et l'indépendance des institutions gouvernementales, il y en a. On va se le dire, je veux dire, la Cour suprême, voilà, merci. La Cour suprême est détachée quand même du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Par contre, le pouvoir exécutif au Canada provient du législatif. Donc, la majorité de l'agenda à l'Assemblée nationale, pas l'Assemblée nationale, aux communes, est gérée par l'exécutif. Donc, quand même, cette forme de démocratie westminsterienne à la britannique, constitutionnelle, ça laisse pas beaucoup de chance aux partis d'opposition de s'exprimer. Alors qu'en Russie, quand même, il y a une représentativité au niveau de l'agenda. Quoique Russie unie domine de façon extrêmement majoritaire. Donc, bon, ça, c'était le premier comparatif. La participation politique, maintenant. Bon, la participation politique, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires qu'on est en chute libre. Je dirais pas en chute libre. C'est pas une pente aussi droite que ça. Mais
c'est une descente tranquille.
C'est une descente tranquille, tout à fait. Ben, ils disent que ils disent. Encore là, je suis toujours dans le doute cartésien raisonnable. T'as 22 % de non-participation électorale en Russie par rapport au présidentiel. C'est pas beaucoup. Sur vote valide...
C'est quand même moins pire que nous autres.
Oui, ben c'est ça. Puis encore là, la commission électorale russe est-elle aussi fiable que celle du Canada? Sûr. C'est une autre affaire. Tu as eu 86 millions de votes valides sur 114 millions d'inscrits. Donc, il en manquerait pas moins de 16 ou 17 millions. On a déjà voté 76 millions pour Poutine. C'est énorme. C'est énorme, tu sais. Pour finir un peu avec les critères aussi, bon, les libertés civiles, on s'entend que pendant la pandémie, là, c'est pas des comploteux là, qui parlent de ça, là, c'est des experts internationaux en matière de transparence démocratique. Ça l'a planté solide d'un point. C'est quand même énorme. Le point, on est du 9, du 8. C'est... Les points sont importants. C'est comme les diamants. Un point, c'est déjà un carat, c'est déjà pas mal. Alors, liberté d'expression, je pense que, vous savez, les médias ont été quand même... On pas été... Ben, c'est ça.
Unanime, on va le dire.
Ont été unanimes, c'est ça. Tu avais un rally around the flag, un peu comme ce qui se passe en Russie. Par rapport à la guerre en...
C'est plus rally along the subvention. Ça serait plus ouais, ça, je dirais. Plus.
C'est un peu ça.
Rally along the establishment.
L'establishment, je dirais qu'au
contraire, ceux qui portaient le plus des flags, c'était certains truckers à Ottawa, puis on les a pas beaucoup aimés.
Ah, le dangereux d'extrême droite, méchant, fasciste, nazi, des camionneurs qui voulaient juste manifester. Mais en réalité, c'était comme... c'était incroyable. Ce qui s'est passé... Tous ces gens-là se sont fait insulter, injurier. On devait quasiment les mettre en prison. C'est les médias nationaux qui disaient ça. Les médias d'un pays libre et démocratique, dit-on. Hein? Alors, la culture démocratique, la culture politique démocratique au Canada, on avait vu ça dans les années 90. Il y avait de l'opposition avec les médias. En 2020, pas tant d'opposition. Puis ceux qui étaient dans l'opposition, même le parti au pouvoir, disaient que le parti à l'opposition était des complotistes. On parle de gens qui ont été légitimement élus, qu'on parle du Parti libéral du Québec. Vous voyez, c'est énorme que le parti au gouvernement parle de parti d'opposition comme étant complotiste. Un peu dire vous êtes condamné pour, pas condamné, mais accusé de sédition ou accusé de trahison. On s'entend, c'est au Canada qu'on a vu ça, non pas en Biélorussie ou en Russie. Quoique en Russie, bon,
Et on a un premier ministre du Canada qui nous a dit que je suis d'accord pour le droit de manifestation et les gens doivent, là je paraphrase ici, les gens doivent manifester, par contre je peux pas créer... Comment il avait dit ça? Il avait dit « Je suis en faveur du droit de manifester, sauf quand les manifestants manifestent contre une politique du gouvernement. » C'est quoi le but d'abord?
C'est ça. C'est qu'à un moment donné, une manifestation devient simplement une parade. Ben, vous allez me dire ben, « Il y a eu des manifestations en Russie aussi. » Et bon, est-ce que c'est la majorité qui pense ça? Est-ce que l'opposition est en muselée? Oui, ben, il apparaît que oui.
Les tanks sortent plus vite des manifs en Russie, par exemple.
Oui, ben oui, exactement. Mais l'affaire étant, même s'ils sont muselés, même si la liberté démocratique, la liberté d'expression, on s'entend, c'est pas fort fort en Russie, il y a quand même une majorité qui soutient encore Poutine. Après presque, ça va faire 36 ans à la fin de son mandat prochain, comprenez-vous? C'est énorme. Mais un premier ministre canadien, comparer un président russe avec un premier ministre canadien, ça t'offre 9 à 10 ans, environ. En moyenne, si on regarde depuis la Confédération, depuis 1867, à peu près ça, 8, 9 ans, 10 ans. Alors, devrait-on légitimement dire ça à deux mandats? Après ça, tu crées ton camp comme aux États-Unis? Est-ce que les législatives, du moins la Chambre des députés, devrait être scindée avec le gouvernement? Devrait-on faire en sorte que l'exécutif soit vraiment plus séparé? Pourquoi pas? Parce qu'en Russie, c'est semi-présidentiel. Donc, tu as un premier ministre, tu as une assemblée et tu as le président, donc l'exécutif. Ici, le premier ministre provient du législatif.
On s'entend que le PM, là, c'est comme comme le VP au US, là, il ne sert pas à grand-chose, en toute franchise.
Pas vraiment, comparativement.
À part faire des tweets et parler en français dans les médias français, là, il ne sert pas grand-chose.
Non, ben, vous savez, à quoi il sert Medvedev, Dmitry Medvedev, là, qui aimait bien Def Leppard.
Qui a été président de la Russie pendant l'intermission des mandats de Poutine.
Oui, parce que la Constitution...
Qui a hijacké les règles de la Constitution pour pouvoir revenir. Là. C'était trop...
Bon, on s'entend que c'était pas vraiment... que c'était assez fantoche. Mais il a pris des décisions qui étaient... peut-être c'est une pièce d'art, là, un théâtre que Poutine disait, bon, okay, on lâche tout là-dessus. Mais bon, c'est assez secret. C'est assez secret comme type de gouvernance. Donc, la liberté démocratique, autant que la transparence démocratique en Russie, elle n'est pas là. Par contre, souvenez-vous du magazine McLean. Le fameux magazine McLean qui parlait que le Québec était la province la plus corrompue du Canada.
Il y a 14 ans,
est-ce que les choses ont réellement changé? Ben la comparaison est la suivante entre la Russie, je le dis encore, « Two wrong don't make a right », en Russie, les mallettes d'argent, on les voit passer. Au Canada, un peu moins. Donc, elle est très souterraine, cette corruption. Encore là, même si on a des vérificateurs généraux, des ombudsman et tout ça, il apparaît qu'il y en a encore de la corruption dans la construction, dans la mécanique du pouvoir. Curieusement, on est encore un pays démocratique pourtant. Ouais. La démocratie pleine qu'est le Canada, laissez-moi vous dire que, bon, peut-être pas l'Afghanistan. L'Afghanistan, sont 0,29. Ils sont pires que la Corée du Nord puis la Birmanie, imaginez-vous. 0,29, au contraire de la Norvège, qui est 9,81. Bon, on est rendu à 8,69. T'sais. 9,24 à 8,69, c'est une belle dégringolade, quand même. Comparativement à ses homologues de l'OCDE, tu regardes en Suède, 9,88 à 9,39, mais ça, c'est en l'espace de 17 ans. L'Islande, c'est une question de points quelque chose, notamment en matière de subventions, qu'est-ce qui fait changer au final une cote plus qu'une autre. Donc, c'est pas vargeux. Donc, si on regarde les faiblesses des institutions canadiennes, au niveau de la représentativité, le Sénat est nommé. Même s'il représente des régions plus que des comtés, il n'y a pas vraiment d'élection. Donc, c'est nommé par l'exécutif. Les relations avec les peuples autochtones, je vous rappelle qu'on a une loi de racisme systémique. Vous allez me dire, Sam, t'es à Québec solidaire, depuis quand t'es un gauchiste? Non! Je le dis, je le remartèle, la loi sur les Indiens est réellement du racisme systémique. C'est préféré...
À date de quasiment 150 ans aussi, là, c'est sûr qu'elle n'a pas été
vue. Exact. Donc, c'est pas parce que c'est la tradition que c'est bon nécessairement, mais ben, t'as encore la loi sur les Indiens. Donc, écoute, la Russie, depuis l'avènement de la démocratie, entre guillemets, en 89-91, martyrise moins ses peuples autochtones que nous autres mêmes. Parce qu'en Russie, quand il y a un problème d'infrastructure avec l'eau potable, à Irkoutsk, Starkoust et tout ça, ben ces compagnies pétrolières, ces méchantes compagnies pétrolières, puis Poutine, il voit quelque chose d'assez intéressant à titre de vote, parce qu'il y a les sujets, il y a les gouverneurs, il y a tout ça. Il y a quand même une forme d'autres pouvoirs décentralisés, mais il va venir en aide aux Autochtones. On ne va pas dire que la Russie n'a pas été, au 16e siècle, les Autochtones, quand ils ont envahi l'extrême-orient russe, ça n'a pas été vargeux, mais au contraire des Anglais qui mettaient des petites couvertes, c'est moins pire. La Russie a été moins pire avec ses minorités. Bon, l'Union soviétique, on se rappelle, les pays satellites, c'est une autre histoire, là. Mais regardez, là, présentement, c'est un peu ça. Donc, en niveau d'infrastructure, je suis pas en train de dire, ben vois-tu, c'est mieux en Russie, on devrait habiter là. C'est pas ça le point. Il va falloir que je me justifie à chacun de mes points parce que ça va être pris hors contexte de toute façon. Fait que t'as ça. Les enjeux environnementaux, c'est supposément une faiblesse des institutions canadiennes, mais t'as une question là-dedans de bureau d'audience publique qui est tout simplement un siège populaire complètement fantoche. Donc, qu'on soit pour ou contre là, certains développements, les BAP c'est pas très vergeux à ce niveau-là. L'acceptabilité sociale, c'est un grand mot. Pas tellement vergeux. Puis il reste encore des inégalités socio-économiques au Canada. Un pays social-démocrate où l'État s'occupe de vous du berceau au tombeau. C'est impossible, voyons, c'est impossible. Le Canada, le plus grand pays du monde après la Russie, ça peut pas. Ben oui, ça se peut. c'est une des faiblesses. Donc, ça, c'est pas à lésiner non plus. Donc, quand je l'ai dit, j'ai dit aussi que la concentration du pouvoir exécutif était quand même assez exacerbée au Canada comparativement aux autres monarchies constitutionnelles, peut-être scandinaves, belges et espagnoles, comparativement aux républiques, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France. Donc, ça, c'est d'une part. Ça nuit aussi à l'essor démocratique. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour ce qui est des critères, j'aurais à dire là-dessus.
Ah non, c'est assez... Écoute, c'est assez spécial, parce que d'un côté, on dit, OK, là, on fera pas l'étymologie des mos crata. Je pense qu'on c'est ça, des cours de base, on est rendu... En tout cas, pour du moins pour ce sujet-là, je pense que les gens en ont pas nécessairement de besoin. Dire qu'il y a de la corruption et tout ça, c'est classique, parce qu'en fait, c'est le prix de la liberté, finalement. On s'est rendu que même Star Trek nous disait qu'à une certaine époque, le prix de la liberté est l'éternelle vigilance, là, le fameux épisode de Jean-Marie, qui est ben un oui. classique en passant. Même encore aujourd'hui, je te dirais qu'il est encore plus relevant que jamais, cet épisode-là. Mais non, c'est ça. Fait que le fait... Tu sais, la joke qu'on dit souvent, c'est que les petits clubs de communistes puis les petits partis communistes révolutionnaires qui popent dans toutes les nations occidentales démocratiques et capitalistes, ben la raison pourquoi ils peuvent fleurir dans tel environnement, c'est que justement, c'est à cause du système qu'ils veulent eux-mêmes défaire. c'est un peu ça. Pour ce qui est de est-ce que le Canada est toujours une démocratie? Bien évidemment que oui. Est-ce que c'est parfait? Absolument pas. Est-ce qu'on a plus tenté une tendance autoritariste au cours des dernières années? Absolument. Est-ce qu'on était dans une dictature? Absolument pas. Je n'irai pas jusqu'à ce point-là. Ça, je tiens à le préciser en passant, hein, puis je n'aurai pas de message à quelqu'un de précis dans l'auditoire, mais je pense que peut-être certains vont s'en reconnaître. Je pense que le terme dictature ou fasciste ou Hitler ou nazi a beaucoup démontré de la faiblesse historique des repères, en tout cas des repères historiques et politiques de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Je vous dis pas que ça a été tout beau, puis ça a été comme une marche dans des champs de fleurs, ce qui s'est passé dans les dernières années, puis que ça n'a pas affecté la démocratie. Au contraire, ça l'a affecté beaucoup. Et j'ai l'impression qu'on les institutions commencent à revenir et à pencher de notre côté, mais je pense qu'on... On n'a pas encore appris toutes les leçons de ce qui s'est passé, ni tous les impacts géopolitiques, à quel point la vision du Canada a été scrappée durant cette période-là. Mais on a flirté avec l'autoritarisme à plusieurs égards et à la surcentralisation, mais je pense qu'on n'y est pas. On n'a pas vraiment franchi on n'a pas franchi la frontière, selon moi. Là. C'est un peu comme quand on voyait Trump avec Kim Jong-un là, à Panmunjom, traverser la ligne pour venir. Là. J'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'on a comme... on fait une image très, très subjective. Là. Mettons que notre démocratie est une belle jante d'âme et l'autoritarisme, c'est comme le gars qui l'invite à danser. Ben, c'est un peu ça. C'est qu'on a fait du dansage, puis de la valse, puis tout d'un coup, oups, on a traversé la ligne, on valse, puis finalement, on est repassé de l'autre côté. T'sais. C'est arrivé. Il va falloir, oui, il faut le marquer au fer rouge en calvaire, il faut apprendre des leçons de ça. Mais ça nous montre aussi à quel point ça prend pas grand-chose. T'sais. Surtout qu'on se dit, ah, nous sommes au 21e siècle, voyons, là, nous sommes un peuple évolué. Plus jamais ça peut arriver, tu sais. Voyons, les nazis, c'était des cas extrêmes. Nous sommes dans des nations mais démocratiques
ça, avec ça
des
a institutions. Tellement marqué les 12 ans que le Monokoi peintre autrichien a occupé dans une certaine république de l'Europe centrale. Chris, vous savez de qui je parle? Que tout est prétexte, on appelle ça un ad Hitlerum ou un Godwin Point lorsqu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale. C'est sûr, ça a été épouvantable, c'est un des plus grands cataclysmes de l'histoire de l'humanité, etc. Mais on ne peut pas juste avoir ça en termes de comparatif, là, comprenez? Oh, mais Hitler a été élu, et puis c'est la même chose. En faisant la même chose par rapport à Poutine comme Hitler, c'est pas toutes les mêmes conditions. Ça serait donc, facile donc, de Genghis comparer. Donc,
Genghis Khan et Alexandre le Grand, c'est la même personne?
Ben oui, ben c'est ça. Ben, ce sont des conquérants.
Ah, donc, ils ont conquéri, c'est la même personne, tu sais. Même Napoléon, ordre, même affaire. Même but, même objectif, même philosophie, même manière de penser, même culture.
Non.
C'est pas différent. Tout.
Ben c'est souvent des raccourcis intellectuels parce qu'on est souvent porté dans l'émotion parce que ça nous a touchés. La politique, c'est émotif aussi. Donc, on réagit en fonction de ce qu'on connaît, ou du moins ce qu'on croit connaître. Donc, Hitler, Poutine, Trump, Hitler, Trudeau, ah, Hitler. Donc, à un moment donné, je veux dire, il y a eu d'autres leaders. Il y a eu Franco, il y a eu Salazar. Hein, qui connaît d'entre vous Salazar au Portugal? En fout de Salazar, mais il a été quand même là dans l'histoire du fascisme. Il y a eu Mussolini, pourquoi pas? Pourquoi pas non plus faire des comparatifs avec des démocraties autoritaires socialistes de l'ancien bloc de l'Union soviétique? Tito? Pourquoi pas Tito? Pourquoi pas Enver Hoxha? Excusez-moi, mon arménien n'est pas tout à fait... Excusez-moi, pas arménien. Albanais n'est pas tout à fait...
Le gars s'appelait Enver.
Enver, oui. C'est pour ça qu'il était... C'est le parti de l'opposition. Il disait qu'il était Enver et contre tous. Excusez, c'est facile. Non, mais Enver Hoxha, H-O-X-A. L'Albanais ce soir, écoutez, là, j'ai pas soupé. T'as peu. Hoxha.
Ouais, mais là, c'est...
H-O-X-H-A, c'est ça, Hoxha. Bref, l'Albanais ce soir. Bon. Bref, il y a plein de figures qui, des fois, sont dans l'ultranationalisme, des fois, sont dans le militarisme, l'impérialisme. Donc, on veut faire l'expansion d'un territoire en disant, ben, les Sudètes sont des Allemands, c'est-à-dire une région de la Pologne. Donc on va, c'est de là que se part la Deuxième Guerre mondiale en passant. C'est qu'on va envahir une partie du nord-ouest de la Pologne, si je m'abuse.
Mais c'est des identifiants historiques reliés à des...
Ouais.
Parce que, tu sais, il faut se le dire, on est des bébés spéciales. T'sais, pas tout le monde, nous autres, sont des tripeux de politique. T'sais, chacun a ses hobbies, et ses passions et ses centres d'intérêt. Donc, les seuls, pour les gens que la politique les intéresse whatsoever ou très, 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 très peu, les seuls marqueurs qu'absolument tout le monde connaît sont bien sûr Hitler, les Staline ou quelques-uns, en tout cas les plus grands marquants, les plus grands méchants de notre histoire en grande majeure partie, mais c'est de la nature humaine de vouloir se trouver un identifiant comme moi qui connaît très peu au niveau du sport, mettons, je sais pas, là, il y a une joueuse de tennis, mettons, là je la vois jouer, j'écoute zéro le tennis, je connais pas encore c'est quoi, je sais c'est quoi le jeu, je suis pas innocent, mais tu sais, je suis pas un expert de ça du tout. Puis là, la fille, je sais même pas dans quelle catégorie elle se trouve, puis l'autre, je dis, ouais... Es-tu aussi bonne que Serena Williams? Là, ils vont me regarder. De quoi tu parles, toi? Là, on parle même pas de la même catégorie, puis de cible, de ça, même pas le même âge. Je sais, mais c'est le seul identifiant de cet univers-là que je connais le nom un peu, c'est les sœurs Williams. Est-ce que tu veux que je te dise?
C'est ça, c'est des références. C'est ce qui vient marquer notre imagination. Quelqu'un qui parle que Napoléon est arrivé au pouvoir, c'est un coup d'État. Oui, mais le consulat a été voté. T'sais, Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie? Je pense que tu avais 3 millions
contre 8 000. Hashtag it's complicated.
Ouais, ben, supposément que ça aurait été truqué, mais le monde était majoritairement derrière lui de toute façon. C'est juste qu'il a rajouté une couple de chiffres pour que ça paraisse plus. Presque 99% qui auraient voté. C'est le plébiscite sur la Constitution de l'an 10, c'est-à-dire 10 ans après la Révolution, c'est-à-dire en 1802. C'est plus complexe que ça. En même temps, est-ce qu'on était... On était entre une révolution, une monarchie de droit divin et tous les alliés qui voulaient envahir la France, ou du moins départager ou dépouiller la France. T'as un contexte où cette France-là devait se défendre. Elle n'était pas dans une logique encore, du moins encore, d'envahir le reste de l'Europe. Ce qui n'était pas le cas de l'Italie ou de l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Je faisais cette petite parenthèse-là, je sais que c'est beaucoup, mais je veux dire, la démocratie depuis Athènes a changé beaucoup de noms. La démocratie, avant, c'était des hommes qui étaient citoyens d'un certain âge. Après ça, tu as eu le vote censitaire, c'est-à-dire des hommes d'un certain âge qui ont un lopin de terre. Après ça, les femmes ont embarqué il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. écoute, en 1940 pour le Québec, pas longtemps, là. Je connais du monde qui sont nés en 1940. Qui sont nés avant 1940, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont connu cette période-là où des femmes ne pouvaient pas voter. Donc, c'est assez récent. Puis, si on parle de, par exemple, la série Duplessis, où on a tellement de plaisir à écouter quasiment une fois ou cinq ans.
On va plugger à chaque débrief, cette série.
À chaque débrief, oui. Je sais pas si c'est à cause de toi ou de moi, mais je pense que c'est le concours des deux.
Là, j'ai rien dit, c'est toi qui l'as sorti.
Non, c'est moi qui l'ai sorti, là, pour vrai. Mais à l'époque, c'était tout à fait normal, dans une démocratie québécoise, de s'allier avec l'Église catholique, romaine et apostolique. On s'entend, c'est une théocratie. Et la théocratie, elle avait ce qu'on appelle du...
De l'influence.
De l'influence, mais c'était du nationalisme par connivence dans d'autres pays. Cet État-là, qui était la Cité du Vatican, avait de l'emprise dans d'autres pays, jusqu'à encore aujourd'hui. Donc imaginez, je veux dire, une démocratie qui, très fragile quand même, était nouée par les couilles par le Saint-Siège. Fallait le faire pareil, là. Jusqu'en 1950 et quelques, là, jusqu'en les années 60. Ça a pris une révolution tranquille pour transformer les soutanes en cravates. Alors, démocratie, encore là, même si on avait le droit de voter à l'époque, ben les femmes devaient voter comme leur mari. Parce que oui, ils ont eu le droit de vote en 1940. Mais non, tu vas voter Duplessis cette année ou tu vas voter Godbout cette année. Je veux dire, sans pour dire qu'il y avait un patriarcat, l'homme gérait quand même le ménage à un certain moment. Donc, est-ce que c'était une démocratie pleine à l'époque? Non, pas du tout. Et du monde se faisait casser les jambes en avant du bureau de scrutin. C'était pas un régime fasciste, là. C'était au Québec, au Canada. Donc, on n'a peut-être pas eu de révolution à proprement parler, mais la grève des mineurs, des gens qui voulaient représenter leurs intérêts. Pas un communiste, mais regardez bien, là. Il y avait des mineurs qui faisaient la grève. Ils sont allés quasiment leur tirer dessus. En fait, ils ont tiré dessus. Il y a eu quelques morts, d'ailleurs. C'était au Québec. C'était pas dans un régime fasciste. Donc, il y a de ça plus de 60 ans, mais quand même. Alors, démocratie, si on ajoute représentative devant démocratie, on obtient une aristocratie. Yannick Alexandre, solutionniste, et
c'est plutôt une
toujours,
république, non?
Hein?
C'est pas plutôt une république qu'on obtient?
Ben, pas nécessairement, parce qu'une démocratie représentative peut être une démocratie constitutionnelle. Au Danemark, c'est une démocratie représentative. Mmh. En France, c'est une démocratie représentative. C'est indirectement, on confie le pouvoir pour un certain temps à des représentants.
Ben,
c'est
ça,
essentiellement
république.
Ça. Pas nécessairement. Ça peut être une république, mais une monarchie constitutionnelle, c'est exactement ça. C'est-à-dire que des députés au Folketing, c'est-à-dire l'Assemblée nationale danoise...
Ouais, ben, t'enlèves l'aspect monarchique de l'affaire, puis ça devient tout des républiques. Là. C'est aussi simple que ça.
Ben, t'as plusieurs formes, pas juste des républiques non plus, là, mais
ouais, je comprends,
souvent monocaméral, bicaméral. Mais essentiellement, c'est ça, c'est qu'on confie le pouvoir à des individus. Du moins, on leur donne un chèque en blanc, puis on dit ça...
Nous élisons des roitelets, nos seigneurs de rang modernes, à qui nous devons tout appeler...
Soit... Excuse-moi, poursuis.
Moi, j'allais dire à qui on doit tous les appeler monsieur, madame, et c'est ça. Que j'ai l'impression que trop souvent, on dit qu'on est évolué sur ce côté-là, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un genre d'aura de seigneurité et de système féodal derrière ce système-là, personnellement.
Tout à fait. Mais regarde, t'as la République française est une république que je dirais monarchique quasiment. Le président incarne la descendance des empereurs.
T'en as eu deux, même du Québec, là, précisément. Là. Tu sais, la France, c'est le cas classique, mais même au Québec, je dirais qu'il y a beaucoup de oui, tu sais, le système de rang. Là,
oui. Ben, en France, c'est vraiment plus hiérarchisé qu'ici, on va se le dire, mais il y a quand même une messe, une curie. On parle d'aristocratie, mais aristocratie, ça veut dire quoi? Le gouvernement des meilleurs. On s'entend que... Ben, l'aristocratie, on s'entendait que c'était avant, c'était ceux qui avaient du sang bleu. Il n'y avait pas le sang de la cloche bleue. Là. C'était des monarques, donc il y avait beaucoup de consanguinité là-dedans, d'ailleurs. C'est pourquoi on appelait ça du sang bleu? C'est parce qu'il était tellement blême qu'on voyait les veines. Donc, ça montrait le sang bleu. Les femmes de la cour devaient être blanches comme, comme une page.
Moi, je pensais parce qu'ils venaient tous de France. Là. Les rois d'Angleterre ont dit they have blue blood. C'est ça, c'est qu'ils venaient de la France, de William, Guillaume aussi. Le Conquérant. Puis, mon feeling, c'était un peu ça. Là. Dieu est mon droit. Je pense que c'était relié à ça. Là, en tout cas.
Oui, mais tu as plusieurs. C'est ça, même là, ils parlaient français à la cour jusqu'à même au 16e siècle. Là. Ça fait pas si longtemps que les monarques britanniques parlent anglais, du moins probablement parler, mais simplement pour dire que, ben, aristocratie, oui et non, parce que c'est le fils de l'autre. C'est une monarchie constitutionnelle, démocratie représentative, mais Trudeau, c'est quand même le fils de l'autre. Quand même. Tu sais, c'est sans dire que c'est du népotisme. Népotisme, c'est l'oncle en italien, népotimo. Et Chris, mon italien est brisé aussi. Des fois, je me mêle. Mais c'est ça, c'était que l'oncle devait donner une certaine part au neveu qui était un prince, puis on lui passait le pouvoir de cette façon-là. Et, écoute, ça s'est fait avec les Kennedy. T'as toutes des dynasties, hein, les Trump. Est-ce que toute la famille Trump va passer là? Les Clinton, même chose. Obama, excuse-moi, si sa femme va se présenter aux prochaines élections. Mais là, c'est encore imagé. Donc, encore là. Des fois, on dit que c'est tout simplement un semblant de démocratie. T'as employé le terme parangon, justement. C'est du pseudo-démocratie. Mais il faudrait aller voir quelques... J'ai dit, c'est un dialogue avec nos gens. Bon.
Oui, j'ai ça. On peut commencer avec nos membres Patreon. Première, en fait, c'est très rapide. Isabelle, merci pour le commentaire. C'était tout simple. Pour répondre à la question, non.
Le Canada n'est pas une démocratie.
Une véritable démocratie.
Une véritable démocratie. Il faudrait savoir c'est quoi une véritable. Est-ce qu'il y a des comparatifs? Ce sera à vous de vous exprimer.
Qui vient du mot « véritable ». Tu sais, comme les trucs du dictionnaire, là, mettons tel mot qui relève deux, trois petits points. Là,
véritable, ça vient de « veritas », qui veut dire « vérité » en latin.
Julie Aymon dit... Non, mais non, même qu'on dérape royalement pour l'interrogation, le contrôle du message est un point effrayant. Le fait qu'on annule certains discours et même certaines personnes me dérange. La liberté démocratique n'annule personne, ce point présentement est en chute libre. Les menaces d'annulation nous font reculer, franchement, mais l'avenir n'est pas du tout noir, sinon on n'en débattrait pas ici. La Russie a raison de nous pointer du doigt.
Ouais, puis en même temps, t'as Trudeau puis Mme Freeland, ou c'est Mme Jolie là, qui parle que c'est pas tout à fait correct les élections en Russie. De quoi je me mêle, pour première des choses? Ça sert à quoi? Tu sais, qui a raison, c'est pas l'histoire. On veut bien paraître, mais ça sert absolument pas, là. Ça sert absolument pas. C'est tout simplement du paraître.
Ce que je répondrais...
Concentrons-nous sur notre démocratie, parce qu'il reste, en termes de corruption, beaucoup de travail à faire. Donc, avant de pointer quelqu'un, regardez comment il y a de doigts qui vous pointent. Ne regarde pas la brindille dans l'œil de ton prochain, et regarde la poutre qui est dans le tien. Donc, on s'entend, c'est Poutine against Trudeau, là. Il y a pas... Le gauge est quand même...
De ce que je répondais à Mme Freeland, c'est tout simplement ça.
En Russie!
Je l'avais rentré dans le système. Ouais. Amateur de What the Cut, vous allez être content. Il fallait absolument que je le plug au moins une fois. Oui, absolument. Francis Hamelin nous dit « Est-ce que le Canada est une démocratie libérale? » Tout à fait. Est-ce qu'une démocratie libérale est fragile? Tout à fait. Est-ce que le Canada a connu des épisodes pouvant fragiliser cette démocratie libérale? Tout à fait. Est-ce qu'on est toujours en démocratie? Bien sûr, mais il faut faire attention, rester alerte et réagir avec promptitude à toute attaque envers la démocratie libérale. Bien évidemment.
Promptitude, le terme.
Ah non, c'est le festival du Scrabble à soir, sérieusement.
On gagne des points. De dire wow, c'est assez. De ne pas se laisser piler sur les pieds. C'est aussi ça. Parce qu'à un moment donné, le Canada est-elle une démocratie? Oui. J'ajoute un point. La démocratie de connivence. On le fait par vedettariat. On s'entend-tu que quelqu'un qui n'est pas intéressé, mais qui va voter quand même, parce qu'il est tellement beau, il fait comme mon gendre. Because it's 2015. Si tu t'occupes pas de la démocratie va s'occuper de toi. C'est pas vraiment cette citation-là, mais c'est plutôt la politique. Parce que peu importe que vous vous occupez pas de la dictature, que vous vous occupez pas de n'importe quel régime, le régime va quand même s'occuper de vous. Puis, en 60-70 ans, l'État du berceau au tombeau, cette forme de collectivisme-là, où l'État prend en compte beaucoup de sociétés d'État. Oui, il y a une liberté de marché, bien naturellement. Mais la liberté de marché, elle est entravée. Elle est entravée de beaucoup. Puis devinez quoi? La liberté de marché en Russie, elle est moins entravée. Elle dit, ah, ça y est, voilà, je l'ai pogné, un pro-russe. Mais pas du tout! Je trouve que c'est un système corrompu et épouvantable. J'irai jamais rester en Russie. Par contre, au niveau de l'économie, ils n'ont pas la RBQ, puis ils n'ont pas ces goodies-là qui font en sorte que ça se vote
des pensions. Ils n'ont pas le fonds de solidarité FTQ.
Non, c'est ça, exactement.
Ils n'ont pas de même.
Leur argent, ils vont directement dans la poche des gens, mais pas indirectement. Bon, c'est tout simplement ça. Mais ce qui entrave la liberté de marché aussi, je pense que la liberté de marché devrait être un critère en matière de démocratie, puis je pense que mes collègues ne seraient pas d'accord avec moi nécessairement, mais oui, je persiste et signe en disant, si vous entravez la liberté du commerce ou la liberté entre les frontières, vous entravez ainsi la démocratie qui serait supposément une valeur universelle. Anticonstitutionnellement contre trip. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont anticonstitutionnellement. Beaucoup d'adverbes qu'on pourrait mettre là-dessus. Qui aurait fait mieux? Ah, Samuel Gendron qui dit qui aurait fait mieux? Parce qu'à chaque fois qu'on parle à quelqu'un qui désire plus débattre avec nous dans un souper de famille, ben, t'aurais-tu vraiment fait mieux? Ça, c'est une question qui à double tour, c'est pas...
C'est tellement facile à démolir. Tu dis, oh, t'aurais-tu fait mieux que Legault? Oui.
Oui.
Pourquoi? C'est facile. J'aurais accepté que les pop-corns, que les cinémas vendent des pop-corns. Juste avec ça, si on suit au fait, j'aurais fait mieux que François Legault, même si j'aurais tout gardé le reste pareil.
Une hostiliste extraordinairement.
On s'entend que c'est ça. Frédéric Desbiens nous dit, il répond à la question, oui, en apparence, mais il faut faire attention. Le contrôle du message et la censure ne vont pas dans la bonne direction. Il y a une ligne que les gouvernements ne doivent franchir et nous sommes très près de cette ligne. Soyons vigilants, absolument.
Oui.
Nous sommes mauvaise tangente, comme dirait l'autre.
Étant donné que le Canada est post-national et même peut-être post-sexuel, d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de... Ah non, je le dis pas tout simplement.
Il sera bientôt post-post.
Oui. Ben oui, c'est post quelque... ouais, c'est tout voilà, à fait ça.
Ça va être ça.
Mais est-ce qu'elle est post-démocratique ou du moins elle s'identifie? Moi, je m'identifie comme démocrate. C'est un peu comme quelqu'un qui se dit, moi, je m'identifie d'être pour le respect. Moi, je suis pour le respect. Ben, c'est un peu ça. C'est que la démonstration de la vertu n'est pas la vertu en réalité. Donc, il y a ça aussi, tu sais. En pointant la Russie, quoi pas, à cause que le Canada n'a pas dit à Corée du Nord, faites mal les affaires. Quoi ça sert, de toute façon?
Ah, contrairement à Corée du Nord, ça va bien, ici.
Ben oui, ouais, ben oui. Hey, regarde, on se compare avec les pays, l'Érythrée, la Somalie, le Mozambique, ouais. En voie
contrairement au Botswana, notre système de santé fonctionne ça à coche.
C'est ça. On compare pas une poire à un melon d'eau, là, pour faire de, tu sais.
Ou encore moins une épinette à un éléphant. Ça, c'est un classique.
Oui, j'aime bien.
Pine trees and elephants. Louis-Philippe Noël, le prophète productif, nous dit « Le Canada est-il une démocratie? » Oui. Est-ce que l'épisode pandémique a révélé les failles qui étaient inconnues du grand public par des lois obscures qui pouvaient donner le contrôle plus important au gouvernement? Oui.
Oui.
Éveillons et challengeons les députés locaux, pas seulement aux 4 ans. Le mot « imputabilité » existe, mais nécessite quelqu'un, en guillemets plusieurs, pour le faire exister. Et ce n'est pas aux mêmes personnes qui doivent les tenir imputables. Tous ont un rôle à jouer. Exactement.
Et ça quand tout le monde commence à dire que ce que tu veux qu'on fasse, la démocratie prend le bord.
Ben c'est ça. C'est que c'est un contrôle, la démocratie, mesdames et messieurs. Il y a une scène extraordinaire d'un film avec Sean Penn que je me rappelle plus du tout c'était quoi. En tout cas, c'est un prof d'université. Là. C'est une scène qui parle à ses étudiants puis il raconte une anecdote de l'époque où c'est que les pères fondateurs étaient en train de formuler ce qu'allait être le premier gouvernement américain indépendant des 13 colonies à la suite de l'indépendance. Et je ignore si l'anecdote est vraie ou c'était juste pour le film. Supposément qu'à Philadelphie, voyons le scientifique maudit, là, père fondateur, voyons, maudit, là.
Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin, merci beaucoup. J'avais un petit blanc. Benjamin Franklin sort du building où c'est que les congressmen étaient, et il y a une dame qui l'accote et dit, Monsieur Franklin, il dit, quelle société avez-vous choisi pour notre pays? Il dit, une république, madame. Il dit, mais seulement si vous pouvez la garder. Only if you keep it that way. C'est seulement si vous pouvez la garder. C'est que c'est ça. C'est que le contrat, c'est que oui, on a des représentants, mais s'il n'y a pas de... Tu sais, la fameuse citation « Who watch the watchers? » Qui surveille les surveillants? Ben, c'est un peu ça. C'est notre, autant qu'on n'est pas, en politique...
Hey, qu'est-ce que les pères fondateurs auraient pensé? « Ouais, c'était des esclavagistes! » T'as un gros bonhomme orange qui dit des affaires comme un monon cochon, puis t'as un sénile. Deux personnes de plus de 70 ans qui ont toujours fait partie du système. « Ah, oh, mais non, Trump a pas... » Hein, oui, il était ami avec les démocrates, il a fait partie du système, il était dans... l'intelligentsia, hein? Vous souvenez des deux termes, là, l'apparatchik. Ben, c'est la même chose de Biden. Biden est là depuis les années 70. Alors, l'aristocratie, ben, c'est un peu ça. C'est que ces gens-là vont, de façon incestuelle, revenir dans le système ben oui, et les représenter.
Regardez le dernier discours de l'Union. La quantité de têtes blanches dans le Congrès, c'était old ben people, oui. Waté, cheveux blancs, 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 cheveux blancs.
C'est de l'âgisme. Mais ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand t'as fait une carrière de 50 ans, tu veux de la coulée d'eau, ça, en faisant de la politique. Oups, pas fin. Ben oui, c'est ça. Hey, ça travaille 70 heures, ça. Nos démocrates à l'Assemblée nationale, les 125, puis ceux qui sont aux communes, les 337, tous ces beaux mondes-là sont des démocrates à 80 heures semaine. Croyez-le. Mais non, c'est pas
possible. En même temps de lire des biographies de Charles de Gaulle en une fin de semaine, tellement ils travaillent fort.
Ah, je sais pas ce que ça se ferait dans un temps d'une guerre. On perdrait. C'est-à-dire ceux qui vivent ici, là. C'est ça, le « on ». Ça serait tout le monde. On perdrait pas mal.
Julie Aymon, un autre commentaire de Julie.
Merci beaucoup.
En 2015, le Canada était au 7e rang sur l'indice démocratique avec 9,08. Et maintenant, il est au 13e rang autour de 8,8. C'est beaucoup si on compare le petit tableau de The Economist. Mais oui, ici, on est très hypocrite sur notre corruption. Et elle met un lien d'article de La Presse que je vais ouvrir à l'instant.
Petite parenthèse, c'était 9,11 les chiffres que j'ai. Non, excusez-moi, pardon. Excusez-moi. 2015.
9,08, c'est ça qu'elle marque.
C'est ça. 9,08, c'est ça. À 8,69, c'est ça. OK, excuse-moi. Parfait. Donc, c'est.
Ben,
c'est
cool, il mérite. C'est, même personnellement, je suis surpris que ça n'ait pas été plus bas que ça.
Oui.
Avec tout ce qu'il y a eu personnellement, là, il y a une période que ça n'avait pas de bon sens. On parle de le plus grand rassemblement pacifique et démocratique de la nation canadienne, que pour une fois, le principe d'unité canadienne a été atteint pendant un très peu de temps en avant d'un Parlement à Ottawa, puis nos grands élites, nos grands politologues ont vu ça comme une manifestation d'extrême droite, un genre de 6 janvier 2.0, alors qu'il n'y a jamais eu une vitre de cassé.
C'est oh, mais
ils ont mis une tuque sur la statue de Terry Fox!
Ah, on s'entend, là, on en a vu des manifestations, pour ne pas dire en 2012, qui ont fini avec des boules de quilles d'en face des policiers, avec des drapeaux, des marteaux puis des faucilles. Mais par contre, il y a juste un petit clin avec un drapeau du Coca-Cola, ou je sais pas trop, le nazi, qui est pris on the flag.
Il a été pris on the flag par le gars qui a dit d'aller se pointer là, je pense.
C'est assez spécial.
Ce que je dis toujours, moi, puis c'est pas de la conspi que je fais, je pose réellement une question. Il y a un an avant le convoi des camionneurs, ouais, je ne sais pas si c'était un an avant, ou du moins dans la même période, dans une période d'un an, vous souvenez-vous de l'histoire des jeunes cons sur le vol de Sunwing, que les Québécois ont spiné ça pendant 2 semaines? Tu sais, les jeunes qui étaient dans un vol à Sunwing,
ils vapotaient,
puis ils sortaient de leur siège, ils prenaient des selfies, puis tout. Ils ont spiné ça pendant 2 semaines. Puis il y en a qui ont... C'était quelques photos, mais on n'avait pas plus d'informations, mais juste avec ça... Ils ont su leur nom, leur adresse, où c'est qu'ils étudiaient, leur passe-temps, leur hobby, leur emploi, whatever. Le tata, là, qui avait son Christi de drapeau nazi ou confédéré ou whatever au convoi de camionneurs, qui ont passé ça pour dire que c'était illégitime, là, n'a jamais su c'était qui. Pourtant, nos grands médias de masse qui sont neutres et indépendants et qui sont les recherchistes de la vérité, ce gars-là aurait été dans le front page du Journal de Québec avec sa face, dans le sens le nazi pro-convoi.
C'est un fait, ça. Bon, vous allez me croire ou pas, là. Mais jadis naguère, avant 2012, Il y avait le fameux COBP, Collectif opposé à la brutalité policière. Il y avait des manifestants undercover. Il y en avait, je sais. C'est même pas pour défendre les communistes, mais c'est vrai. L'État, a dépêché des policiers pour se déguiser en manifestants, pour qu'ils pêchent des roches et bâtiments, pour faire arrêter la manifestation. C'est vrai, ce que je vous dis là. Je les ai vus de mes yeux vus.
J'ai vu des trucs sur le 6 janvier, même c'est Joe Rogan qui en parlait il y a ça quelques années. Tu sais, il y a des clips, premièrement, si tu veux savoir c'est quoi, tu sais, ce qu'appelle des feds, là, si tu leur connais un fed, c'est qu'ils sont tous, ils se tiennent tous entre eux autres, ils sont tous habillés pareil, même t-shirt, ils sont tout le visage tout le temps caché avec les lunettes fumées. Mais tu sais, m'a dit comme Joe Rogan, parce qu'il les voyait avancer en genre de ligne militaire, comme ça serait comme des genres de pros, des militaristes, whatever. Puis là, oui. Là, Joe Rogan, il dit « Where's the fat people? » Ben, c'était vrai. Parce que tu dis dans une... Même un rassemblement pro-gun américain qui sont comme un groupe paramilitaire, c'est sûr que tu vas en avoir 2-3 overweight. On parle quasiment aussi d'un pays où c'est que l'obésité, c'est quasiment une personne sur 3, par définition. Mais c'était tous des gars super cut, là, tu sais, quasiment de l'armée ou des Marines. Tu te dis « OK... » Je dis pas que c'est 100% la vérité, mais je vous dis simplement que, il me semble, c'est louche en calvaire. Puis tu lui demandes, tu sais qui, ils te répondent pas.
Je vais vous dire.
Ils se font supposément arrêter à part des autres groupes par les policiers du Capitole. Puis ils sont tous dans des terrains, puis tout d'un coup, on les revoit plus. Tu sais, il y a tellement...
On parle de ça, là. Mais la démocratie sera réellement pleine quand les gens qui ne proviennent pas de la même culture, je parle de culture politique, de culture de hiérarchie, viendront qu'à faire de la politique. J'ai rien contre les avocats, je travaille pour des avocats. J'ai rien contre les médecins, je veux dire, c'est assez important. Mais lorsque des fermiers, lorsque des gens qui sont issus du milieu du service à la clientèle, lorsque des gens, pourquoi pas, qui proviennent d'autrement que des médias se retrouveront au Salon Bleu ou à la Chambre des communes, il y aura probablement une meilleure pluralité démocratique. Lorsqu'on fera peut-être plus exemption des partis politiques, que ce soit dans les villes, en province ou dans le reste du Canada, il y aura peut-être une meilleure représentativité. On parlera des gens au lieu de leur drapeau. On parlera des personnes au lieu de leur l'idée de leur chef ou de qu'est-ce qu'ils revêtent en réalité. Donc, la parure, c'est pas ça, la démocratie. C'est ce qu'on en fait avec. Alors, si vous sortez et vous dites « je m'en vais en politique », et que vous risquez pas mal tout, vous avez absolument toute mon admiration. C'est un avocat de fin de retraite, quasiment, ou que vous êtes déjà avec des amis d'un tel. Regardez sur les 125, s'il y en a réellement qui sortent du lot. Il n'y en a pas tellement. En 337 non plus. Je veux dire, il y a peut-être un ou deux travailleurs sociaux là-dedans. Mais essentiellement, c'est un milieu circulaire, masturbatoire et incestuel. C'est essentiellement ça. Donc, allez pas me dire que la démocratie en Russie, c'est mieux. Là-bas, il faut que tu payes pour rentrer. C'est seulement, c'est un club select. Alors ici, c'est pas un club select, c'est le melting pot de ceux qui sont déjà là. Alors, c'est un peu ça. Ben, traitez-moi de conspirationniste, traitez-moi de populiste, peu importe. Même les populistes, ils viennent du même...
Un melting pot qui se rattache quand même, du moins idéalement, à un poteau central. Et c'est ce qu'on n'a pas au Canada, et c'est pour ça que tout chie. Parce que les Américains ont justement leur patriotisme, que vous le voulez ou pas. Les États-Unis sont the melting pot country by definition. Il y a toujours ça qui transcide le multiculturalisme et ses effets négatifs, en tout cas au Canada.
Non, pas ce melting pot-là. Je parle de. Pas le melting pot. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas le même type. Là. Je parle du. Voilà. Même si en fait, tous les ingrédients, c'est pas mal des patates, des carottes, puis du siam, là, du navet. C'est du siam. J'ai 77 ans, puis je viens du Saguenay. Mais c'est ça.
Du blanc
ça
mange.
Finit tout par goûter la même chose. C'est ça mon point. C'est ça pas le multiculturalisme ou l'interculturalisme. Sam est un troll comme moi ou presque. Alexandre Bourgeois. Non. Non. C'est pas parce qu'on provoque, qu'on fait de la satire, qu'on est dans ce genre de vocable-là. Mais bref, c'est un peu ça pour faire le tour.
Oui, puis au niveau des commentaires Patreon, on a pas mal fait le tour aussi. Merci d'avoir répondu, merci de vos réflexions, toujours un plaisir. Merci beaucoup le monde d'avoir été là. On dépasse quasiment les 200, en tout cas un petit peu moins de 250 personnes ce soir, nice. C'est vraiment nice. Ça ne fait qu'augmenter au fil des minutes. Donc, c'est une heure qui a passé quand même très vite, je trouve. Belle réflexion, mon Sam, là-dessus.
Merci, Joey, merci.
C'est ça, comme je vous dis, éternelle vigilance, mes chers amis. C'est le prix qu'on doit tous payer, comme disait le capitaine Picard. Fait que restez vigilants. Et je pense qu'il faut le faire parce que notre 14e pouvoir qui est censé être vigilant, ça fait longtemps qu'il s'est fait acheter. Puis il est vigilant juste à 16 heures quand il dit de vigiler, puis il ne vigile pas tout le monde. Hey, puis il vigile pas tout le monde.
Est-ce qu'un gouvernement conservateur de droite qui coupe toutes les subventions aux médias serait taxé d'être fasciste?
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui.
Parce qu'il serait peut-être l'opposition au gouvernement. Donc, on coupe toutes les subventions, puis les médias vont être contre le gouvernement. Au moins, ils vont s'opposer pour des raisons qui les appartiennent. On devrait voir s'ils vont survivre. Mais bon, c'est une autre histoire. Merci tout le monde. Merci, Joey. Yes. C'est toujours un plaisir.
Bonne soirée tout le monde.